J'ai les munchies, tiens. Parlant de munchies, où c'est qu'on va vendre le pot lorsqu'il va être légal? On va en parler avec Hugo Saint-Onge, chef du Bloc Pot. Ben oui, c'est pas mort le Bloc Pot, ça existe encore. C'est alive and kicking, comme diraient les anglophones. Alors, bonjour Hugo Saint-Onge.
Bonjour Monsieur Martineau.
Bonjour. Alors, ben, si là, la SEQ veut pas vendre ça, mais en tout cas, ils autres voudraient les employés, mais là, Carlos Letao, il a dit hier de question. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, selon votre point de vue?
Ben, moi, je m'entends au moins sur ce point-là. C'est vrai que le gouvernement du Québec n'a rien à voir à la commercialisation ou à la production du cannabis. Ça n'est pas la fonction de l'État. Ça se peut que l'État ait à établir une régie pour contrôler le cannabis commercial, à avoir une action gouvernementale, et c'est là qu'on s'entend pas. Lui, il attend après le fédéral, quand c'est la responsabilité des provinces, et c'est les provinces qui devraient agir et être actifs, un peu comme ils l'ont fait d'ailleurs avec le jeu dans les années 70. Le jeu, c'était, dans le code criminel, c'était criminalisé, et le provincial a fait des propositions fédérales pour changer la loi, et le gouvernement fédéral a accepté.
Ben, c'est bizarre quand même, parce qu'ils sont prêts à vendre des billets de loto, ils sont prêts à vendre des casinos, ils sont prêts à vendre de l'alcool, mais ils sont pas prêts à vendre du pot. Pourquoi pas?
Écoutez, c'est moi, nous autres, ça fait 18 ans qu'on réfléchit sur la question, et nos solutions sont bel et bien claires et assez évidentes et faciles à faire. Ça pourrait être fait dans les 6 prochains mois, ça aurait pu être fait depuis 15 ans, 20 ans, 40 ans en fait. Parce que le gouvernement du Québec a les outils actuels pour le faire.
Alors, ça serait quoi votre solution, vous autres? Ça pourrait être vendu comment?
Bien, selon nous, le cannabis, premièrement, c'est une. Si on veut établir un modèle, c'est un modèle qui doit être spécifique. Le cannabis, c'est pas de l'alcool. On peut pas mourir en consommant le cannabis, contrairement à l'alcool fort, par exemple. Ce n'est pas non plus des tomates, parce que. Mais ça ressemble à des tomates, mais c'est pas non plus comme des tomates. C'est pas comme du chocolat non plus. Et c'est plus proche du café, probablement. Donc, le modèle du café est le modèle qu'on privilégie. C'est-à-dire un marché qui est plutôt ouvert, très libéralisé, où il y a énormément de joueurs, où le terroir va être respecté. Présentement, il y a plein de gens qui sont actifs dans ce milieu-là et ils vont être exclus actuellement selon les projets là, que le Parti libéral fédéral propose. Alors pour nous, c'est le contraire. Les amateurs doivent être au centre du changement. Ils doivent même être les porteurs de changement.
Mais Hugo Saint-Onge, est-ce qu'on pourrait imaginer comme un genre de route du pot, comme il y a la route des vins, où on arrête chez les producteurs de pot puis on peut déguster leurs produits, mais...
Oui, mais non, ça, c'est exactement l'objectif que le Bloc Pot défend depuis 18 ans.
Ah oui.
C'est le modèle qu'on privilégie. Le cannabis commercial a probablement besoin d'un certain contrôle, mais après, quand on est chez nous, on peut faire ce qu'on veut. D'ailleurs, je vais paraphraser Papa Trudeau, qui disait que le gouvernement avait rien à voir dans la chambre à coucher des gens, mais le gouvernement a rien à voir dans mon jardin, ni dans mon cendrier, d'ailleurs.
Mais là, c'est quoi? Là? Il y aurait, mettons, un maximum de quantité de potes que je pourrais acheter? Ou comment on pourrait les
chiffrer? Non, aucun maximum, ça, selon moi, parce que les maximums... En fait, regardez, là, on va tourner ça à l'inverse. Là. L'alcool, je vous le disais tout à l'heure, ça tue. On va acheter 2 caisses de 12 de vodka par jour et ils vont accepter notre carte de crédit avec joie, même probablement qu'après quelques semaines, ils vont venir nous le livrer chez nous.
Ben, tu peux même boire ça dans un restaurant si tu...
Donc,
si tu
maintenant, veux. Le cannabis, qui est une substance peu dangereuse ou qui a un niveau de danger qui ressemble au café, okay. On voudrait y mettre des limites. Ces limites-là là, sont basées sur le préjugé moral de la prohibition que toute consommation est négative. Non, le cannabis, c'est bien, c'est correct d'en consommer, et même que c'est probablement une des substances les moins nocives qu'on connaît au niveau
de... C'est comme l'alcool aussi, ça dépend de ta consommation. Si t'es sous à longueur de jour, c'est pas bon.
Attendez, là, c'est sûr que si on se base sur ceux qui ont des problèmes de dépendance ou qui ont des troubles psychotiques en consommant pour établir une politique publique, on est vraiment dans le champ. Je veux dire, c'est la mauvaise façon de penser. Il y a peut-être 10 000 personnes au Québec qui ont des problèmes de dépendance reliés au cannabis. Il y a peut-être 600 personnes par année qui sont hospitalisées pour le cannabis. Il y a 1 million de consommateurs. Est-ce qu'on fait la loi pour les 10 000 personnes qui ont des troubles ou puis les 600 personnes qui ont des problèmes? Non, je pense pas. Je pense que c'est la mauvaise façon de regarder la question.
Mais, Monsieur Saint-Onge, quand même, Monsieur Letao a apporté un point intéressant. Si c'est vendu à la SAQ, ça peut être dangereux pour les jeunes qui auront donc moins accès au cannabis. Donc, le crime organisé pourra en profiter. Ce serait quoi, selon vous, la façon la plus intelligente de vendre ça?
En fait, la façon la plus intelligente, là, ça vient de deux personnes qui sont très connues. Bon, peut-être pas pour le commun des mortels, là, mais Marie-André Bertrand et Dr. Lester Greenspoon de l'Université d'Harvard.
Je connais Marie-André Bertrand, c'est la criminologue, là.
Exactement, qui est décédée, là, il y a 5 ans, je crois, ou 6 ans. Alors, elle, dans le rapport Ledain, elle disait déjà qu'il fallait légaliser toutes les substances. Okay? Donc, elle avait une vision très anti-prohibitionniste de la question des drogues. Maintenant, Dr. Greenspoon, c'est un médecin à l'école de Harvard qui, lui, a, à un moment donné, découvert le cannabis sous un autre jour parce que son fils était malade. Donc, il y a eu une ouverture, il a commencé à fouiner dans ça. Et leur point de vue, c'est d'ouvrir, de déprohiber et d'ouvrir le marché le plus largement possible. Il faut réduire la valeur du produit parce que la valeur du produit, ça donne un boost aux profiteurs puis aux criminels.
Mais le plus largement possible, Hugo, c'est quoi? Dans des épiceries? C'est quoi? Seulement chez le producteur? Ou alors
regardez, Dr. Greenspoon dit que l'aspirine est plus dangereuse que le cannabis et l'aspirine est disponible à tout le monde. On vend des Red Bull aux enfants. Je veux dire, n'importe qui peut aller acheter un Red Bull, puis c'est du poison à quelque part. Là. C'est quelque chose qui est pas très... En tout cas, j'apprécierais pas que mon enfant en prenne.
Non, ça fait et pas tout le monde. Là.
Totalement disponible. Maintenant, je dis pas faut que ça soit... le bar ouvert à tout le monde de toute façon. Là, il doit avoir des règles. Je comprends que c'est 18 ans et plus dans un coffee shop ou dans un magasin spécialisé. Je crois pas qu'il faut mélanger ça avec la SAQ et les magasins d'alcool. Mmh. Ça serait envoyer un message contradictoire. Ça serait un message qui viendrait brouiller les pistes.
Que l'alcool va avec le pot. Tu sais,
pas vrai. Oui, c'est ça, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun lien. Là. Peut-être que quand on fait la fête, on a l'habitude des fois de fumer un joint. Bon, d'accord. Mais c'est un lien qui est fait par la coutume des gens. Mais la substance est aucunement liée. Là.
Et à Amsterdam, tu peux seulement consommer dans des coffee shops. T'as pas le droit de fumer ton joint dehors, à l'extérieur, non, peut-être chez toi. Chez toi, dans les coffee shops, ça sera la même chose ici?
Ben, moi, je pense qu'il faut avoir une place où c'est spécialisé, où on a des gens qui connaissent, comme ils disent en anglais, des « bud tender », donc des fleuristes, des spécialistes des fleurs qui sont capables d'en parler, de discuter, d'offrir un service même après-vente. D'ailleurs, si c'était pas prohibé, si on vous vend du cannabis pourri, vous faites une plainte à option consommateur, puis on vous rembourse. Ça devrait juste être de cette façon-là, on aurait réglé le problème.
Et là, on vit dans une drôle de période, là, parce que ça a été, mais tu sais, Trudeau, il a dit, bon, je veux légaliser, mais là, c'est pas encore légal. Fait que là, il y a plein de gens qui sont prêts à en vendre tout de suite, là, mais là, il dit, les autorités disent, non, attends une minute, c'est pas légal, mais c'est pas légal là, mais ça va l'être à un moment donné. Fait que, c'est comme un buffer zone bizarre, là, dans lequel on est.
Ben, en fait, j'ai même l'impression qu'ils font expression. Regarde un peu ce qui s'est passé avec la prohibition de l'alcool. Il y a eu une recrudescence des arrestations juste avant la fin de la prohibition. Puis c'est un peu ce qui est en train de se dérouler actuellement. Et moi, j'encourage tout le monde à en faire pousser. J'encourage tout le monde à, s'ils veulent se partir une boutique, d'oser. Il faut briser le mur. Le mur est en train de se lézarder. Et là, l'État le joue genou à terre, mais on leur laisse le temps de se réorganiser pour maintenir la prohibition. Parce que la légalisation, là, si on lit bien ce que le gouvernement Trudeau, en fait, leur promesse, si on lit ce qui était écrit, c'est clairement ça. La prohibition va être maintenue, sauf que le cannabis va être réglementé strictement. Donc, finalement...
Hugo, est-ce qu'on va réglementer le THC, c'est-à-dire à partir de tant de THC, on n'en vendra pas, puis ça va être considéré comme dangereux. Là, tu vas avoir un marché noir de potes avec
C'est pas exactement pourquoi que je parle de... Il faut déprohiber. Là, présentement, on parle d'une néo-prohibition quand on parle de légalisation. On faut mettre fin à la prohibition, point. Il faut libéraliser le marché, point. À partir de ce moment-là, on va pouvoir intervenir. Avoir une régie qui contrôle le cannabis qui est vendu commercialement, c'est normal. Que le MAPAC vérifie les producteurs, c'est normal. Et on a déjà tous les outils pour le faire. C'est juste que le gouvernement québécois se maintient dans le même manque de jugeote que le gouvernement à l'époque, en 1923, quand ils ont prohibé le cannabis. Le gouvernement fédéral là, avait aucun pouvoir de prohiber le cannabis, mais ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que aucune province, tout le monde s'en foutait finalement. Mais aujourd'hui, ils continuent à être dans cette situation-là, et il faut agir autrement.
Il y a eu des études là, dans des pays où on a décriminalisé, où on a légalisé le pot. Ouais. Il n'y a pas eu une recrudescence spectaculaire de la consommation. Là. Les gens qui voulaient pas en fumer se sont pas mis, ils n'ont pas commencé à en fumer. Tu sais, ça n'a pas vraiment changé grand-chose.
Les jeunes qui consomment le moins le cannabis, c'est en Hollande.
Ah ouais.
Et pourtant, c'est dépénalisé depuis 1974. Donc, il faut vraiment... Le discours de peur qu'on nous maintient est basé sur rien. Point barre. J'en ai lu des études, là. J'ai fait le tour en masse depuis 18 ans, là. Et il n'y a rien qui tient dans ce qu'on s'est fait dire depuis 40 ans.
Puis, qu'est-ce que vous répondez aux études? On a vu ça dernièrement, là, surtout lorsque Justin Trudeau a annoncé qu'il voulait légaliser, que le pot était très néfaste, surtout pour les adolescents, et même les jeunes, pour le cerveau et tout. Est-ce que vous avez d'autres études qui contredisent celle-là?
Bien, c'est plutôt quand on lit les études, on regarde la méthodologie, la portée des... ce que l'étude ou la recherche a été faite ne peut pas amener à une telle conclusion qui a été médiatisée. Ça va beaucoup trop loin. On n'a pas vraiment d'informations. C'est plus, faudrait faire attention. D'ailleurs, Pierre-Claude Nolin, à l'époque, il avait dit que ça devait être à 16 ans l'âge. Mm-hmm. Parce que c'était aussi une manière, parce que sinon le crime organisé va continuer à vendre aux plus jeunes. Si on veut protéger les jeunes, d'ailleurs, c'est notre discours depuis 18 ans aussi de vouloir protéger les jeunes, là. Qui veut pas protéger les jeunes, bordel? Je veux dire, c'est juste normal. Mais ça, il faut une campagne d'information.
Parce que, effectivement, Hugo, si on dit à partir de 18 ans, là, on s'entend-tu que ton premier joint, là, ben, à 16 et 17 ans, le temps fume du pot, là, je m'excuse, là. Ben, là, eux autres pourront pas aller en acheter de façon légale, fait qu'ils vont continuer à en acheter chez des pocheurs.
Ou ils vont demander à leurs cousins, leurs frères plus vieux de leur en acheter aussi. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme on fait... Moi, ma première bière que je me suis achetée, c'est un ami qui me l'a achetée, là, j'avais 15-16 ans, là. Je veux dire, c'est pas un problème. Le problème, là, autour du cannabis puis de la consommation chez les jeunes, là, c'est lié au fait qu'il n'y a pas de modèle de consommation raisonnable et responsable qui est véhiculé dans le discours. La seule consommation que le gouvernement tolère dans leur discours, c'est « consomme pas ». Donc, c'est un mauvais départ, là. Je veux dire, pour avoir, je l'ai dit à plusieurs personnes qui sont des intervenants, si on veut vraiment avoir une campagne intelligente sur le cannabis avec les jeunes, c'est premièrement arrêter d'en parler comme on en parle et dire que c'est correct d'en fumer parce que c'est bon. Mais oui, il y a des risques. Voilà la liste des risques. Regardons-la, c'est correct. Et voilà, on le sait. Là, maintenant, on veut juste interdire.
Faisons un dialogue franc, là, franc et sincère.
Oui,
là, regarde, là, si tu viendras pas fou, là, fais attention, essaie de pas conduire sous influence, fais attention de ne pas en prendre trop souvent, puis tout ça. Aider les gens qui veulent en prendre à avoir une consommation responsable. Les aider.
Et voilà. Et moi, je voudrais juste revenir sur les jeunes. Les jeunes, là, il y en a beaucoup qui consomment dans une année, mais ils consomment très peu. Ceux qui consomment beaucoup, là, selon les statistiques, là, ils ont 30 ans et plus. Ils ont un diplôme postsecondaire et ils gagnent un salaire en haut de la moyenne. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de parler des jeunes. Parlons de ceux qui sont vraiment dans le centre, les amateurs, ceux qui aiment ça. Il y en a 1 million au Québec qui consomment le cannabis. Ces gens-là, ils doivent être pris au centre de la question. Pas les quelques personnes qui ont des problèmes. Ces personnes-là, on veut les aider, mais on les aide pas actuellement en les criminalisant, puis on les aide pas en tenant un discours de peur. Fait que oui, puis présentement, en plus, pour revenir au modèle, on laisse Cypress Hill, puis Dr. Dre, puis Snoop Dogg de parler de weed, puis de valoriser la consommation. Je veux dire, c'est complètement délirant, là. Ces gens-là représentent à peine 10% des consommateurs, mais c'est seulement comme ça qu'on la voit, la consommation.
Ben oui, d'ailleurs, Elisa, Snoop Dogg s'est associé avec un producteur de pot ontarien, c'est ça?
Un producteur, de l'Est ontarien, avec Tweed incorporé,
Oui, ça, c'est la compagnie qui est affiliée au Parti libéral du Canada. Ben, affiliée, entendons-nous, là, c'est un ancien dirigeant. Richie ou Ricky, là, je m'en rappelle plus, là, qui est devenu financier du Parti libéral pour la campagne.
Mais bref, c'est la première incursion de Snoop Dogg dans l'industrie du cannabis au Canada.
Au Canada, oui, exactement.
Ouais. Alors, c'est-tu l'ancien pocheur de Justin? Ce gars-là.
Mais d'ailleurs, pour revenir à Justin, là, on oublie que sa mère, c'est une consommateur de cannabis. Son frère Michel, qui est décédé, là, c'était un pothead, comme on parle d'un pothead, là. Fait que c'est quelqu'un qui connaît le dossier, là, je veux dire, c'est sûr, sauf qu'il est quand même pris dans son titre de premier ministre, pris avec plein d'enjeux. Puis présentement, c'est ce que je trouve délirant, c'est qu'on laisse aux prohibitionnistes de décider comment que ça va changer. Ça fait pas de sens. Pourquoi ceux qui là, un an ou deux, nous disaient que c'était des malfrats, les fumeurs de potes, c'est eux qui devraient décider de comment ça va être? Je veux dire, c'est complètement incongru, là.
Hugo Saint-Onge, t'es vraiment convaincant, t'es super bon comme porte-parole. Alors, Hugo Saint-Onge, chef du bloc, pote, quelque chose me dit qu'on va se reparler bientôt. Merci beaucoup, Hugo.
Ça me fait plaisir.